Et bienvenue sur Paris Central. Après une énième défaite, on n'arrive même plus à les compter, les défaites de suite au Parc des Princes. Galtier, finalement, aura été décisif, aura marqué de son empreinte l'histoire du Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain sous QSI. Pour en parler, j'ai avec moi ce soir, j'ai Rekoba, que vous connaissez tous, j'ai Tonton et j'ai Ken de la chaîne. J'ai oublié le nom de ta chaîne, excuse-moi Ken, tu peux la redire.
Julien Le Gaune.
Voilà, Julien Le Gaune, grosse chaîne lyonnaise. Il est avec nous justement pour parler, c'est un PSG Lyon, donc on s'est dit on allait le prendre. Et j'ai envie de vous poser une question, messieurs. On avait un petit peu le galette vs Touillette. Est-ce que c'était un long match, pour parler comme Nasser? Rico, je te laisse commencer.
Non, il y a eu un match qui a été joué. Voilà. Paris a dû jouer ce soir, donc ils ont joué. À l'image de Messi, il devait être sur la pelouse, donc il était présent sur la pelouse, mais il n'y avait personne ce soir, à part Lyon qui a fait un bon match. Julien pourra en parler du coup mieux que nous, mais Lyon a fait son match, ils sont venus avec des intentions de jeu, ils ont bien joué, ils sont arrivés, comme beaucoup d'équipes, hein, très facilement aux abords de notre surface. Ils ont joué comme il fallait, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, ils ont mis de la vitesse, et ils nous ont mis en danger sur énormément de séquences de jeu. Et nous, on n'a jamais su répondre, même en deuxième mi-temps, en étant mené 1-0. On fait une frappe cadrée, je crois, celle des Kitike. Donc voilà, un match triste, un match qu'on est obligé de regarder malheureusement. Et les matchs s'enchaînent, les défaites s'enchaînent, rien ne se passe, rien ne change. Le Galtier est toujours là. On peut voir Graham Potter qui a été limogé aujourd'hui. Et puis on continue comme ça. Et puis les supporters encouragent l'équipe. Il n'y a pas de bronca, il n'y a rien. L'équipe, elle ne bouge pas, il ne se passe rien. Donc voilà, et nous, on est là devant notre télé à devoir regarder ça malheureusement. Et puis voilà, chaque semaine c'est la même chose. On n'a même plus envie de regarder un match du PSG. Moi, ce matin, j'en avais rien à faire de ce PSG OL, et encore une fois, j'ai été déçu. Donc voilà.
Et du coup, alors Tonton, est-ce que tu aurais la même lecture que Rekoba sur le Paris Saint-Germain?
Un PSG inoffensif, un PSG qui ne fait pas peur. Deux défaites consécutives au Parc. Record sous QSI, bravo Galtier. Apparemment, on aurait tiré 16 fois et on aurait cadré 5 tirs. Faudra que je revoie le match, ce ne sera pas facile, je ferai l'effort.
On doit les avoir.
Apparemment, on a tiré cette fois, mais non, il n'y a rien de satisfaisant à tirer. Galtier empile les records de médiocrité au PSG, et à ce rythme-là, c'est à se demander si le PSG va garder le titre. Il fait tant d'efforts pour ne pas le gagner, en tout cas.
Est-ce que avec les joueurs, ça se passe bien? On en parlera peut-être après. Rico avait trouvé Lyon bon. Moi, j'ai pas trouvé Lyon si bon que ça. J'ai trouvé Lyon pas mal, en fait, mais pas non plus ouf. J'ai surtout vu un Paris atrophié. Mais justement, est-ce que toi, Ken, qui est lyonnais, qu'est-ce que tu as pensé de la performance lyonnaise?
Alors moi qui suis à deux pas du parc, hein, ici Libolino, donc c'est vous dire, et mon tonton qui est à l'Olympique Lyonnais,
quelle coïncidence. Ou pas?
Alors d'ici j'entends rien, et désolé, je ne pourrais pas parler très fort mes amis, il y a du monde qui dort. Mais non, effectivement, je te rejoins totalement mon cher Rias, ça a été un match Lyon-PSG pour moi qui a été l'un des plus faibles de ces dernières années, honnêtement. J'ai trouvé, vous savez, on est beaucoup en désaccord dans mon équipe de chez Julien Le Gaune. Moi j'ai annoncé en première mi-temps, lors du live mi-temps de Julien Le Gaune, j'ai trouvé une première mi-temps plutôt faible, beaucoup de déchets. Certes, il y a eu de l'intensité côté lyonnais, et il faut mettre de l'intensité face à cette équipe du PSG, parce qu'elle a des individualités qui, mine de rien, peut toujours te claquer un but. Mais on a fait comme toute autre équipe qui est venue au Parc des Princes, c'est-à-dire on est rentré dans l'art du PSG, le PSG n'a pas été bon, et puis on a eu l'opportunité de pouvoir mettre un but, et puis basta, quoi, c'est tout. Hein. PSG faible, sûrement l'un des plus faibles sous l'ère QSI. Et voilà, ce match-là ne changera rien pour la fin de saison de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il ne faut jamais juger un match face au PSG. L'Olympique Lyonnais est capable de perdre face au FC Nantes, à Nantes, à la Beaujoire. Donc moi, honnêtement, pour moi, je n'attends rien. Même pas content forcément de la victoire, je vous dis, du côté de l'Olympique. Pour moi, c'est une saison ratée de l'OL.
Il doit y avoir une petite satisfaction quand même. Tu vas battre Paris au Parc. C'est pas rien.
Non,
ne serait-ce que parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé.
Ouais, mais... Honnêtement, moi j'ai vu deux équipes qui sont censées être les locomotives du football français aujourd'hui nous livrer une prestation catastrophique. Alors, je vais peut-être me faire taper dessus lorsque les Lyonnais reverront ce live, ou si lorsque j'en parlerai tout simplement chez Julien Le Gaune, mais honnêtement, on parle de l'Olympique Lyonnais du PSG, les gars. Dimanche soir en prime, et on livre une prestation pareille.
Mais je sais pas si tu t'amuses à compter sur les 20 dernières années le nombre de titres cumulés du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais. Tu as, mis à part deux exceptions, fait une razzia sur tout en fait.
Le match de ce soir, il est à l'image de la déchéance de ces deux clubs. Après, c'est difficile de se plaindre quand malheureusement tu vois l'Olympique Lyonnais, c'est encore pire que nous.
Oui,
vu leur histoire récente. Mais ce match, il est clairement à l'image de la déchéance des deux clubs. Et il ne se passe plus rien, c'est triste, on ne reconnaît plus rien.
Après, j'ai vu, voilà, pour quand même donner des notes positives à mon équipe, j'ai vu quand même un état d'âme qu'il n'y a plus au PSG depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, mine de rien. Je pense qu'un Bradley Barcola, il n'a rien envie à critiquer du côté du PSG. Je pense qu'un même le milieu de terrain, alors vous me direz individuellement, ils sont beaucoup moins forts que le PSG. Mais un Renato Sanchez est une fraude, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur qui enchaîne les blessures, qui est peut-être pour moi un plafond de verre dans le football de haut niveau. Vous avez un Verratti, j'ai entendu Nix, que je salue en fond, qui a rejoint la team Riolo, chose que je me rappelle, j'étais passé en live et je m'étais fait quand même taper dessus sur Verratti, qui pour moi n'a plus le niveau de... Voilà ce qu'on demande à un milieu de terrain de haut niveau aujourd'hui dans le foot moderne. Pour moi, je vous dis... Vous êtes beaucoup à taper dessus, mais pour moi, Vitinha est un très bon joueur. Il faut le garder, il faut surtout lui donner la confiance, c'est bien entouré et construire avec lui, parce que pour moi, c'est un très bon milieu pour les années à venir. Voilà. Je vais finir là-dessus.
Pour moi, Laurent Blanc n'a jamais été un immense coach au niveau tactique. J'ai l'impression que ça s'est vu ce soir. Pour moi, Galtier, c'est zéro au niveau tactique. Ça s'est encore confirmé ce soir. Et quand je titré le match La Galette vs la Touillette, c'était intentionnel parce qu'on a vu un match qui tactiquement était d'une pauvreté infinie. Effectivement, je suis d'accord avec toi, quand on a vu beaucoup plus d'allants côté lyonnais. Il y a un truc qui est notable d'ailleurs, c'est à partir du moment où les jeunes sont rentrés qu'on retrouve un petit peu d'envie. Et d'ailleurs, bonne rentrée de Ruiz qui s'est fait taper dessus par tous les supporters sur le match parce que Renato, pour une fois, faisait une prestation qui était un petit peu plus en adéquation avec les attentes qu'on avait en lui. Mais voilà, on a vu niveau tactique une vraie bouillabaisse. On va faire un petit focus sur Lyon parce qu'on a un poteau lyonnais qui s'est pointé. Et du coup, au-delà de cette victoire, toi, qu'est-ce que tu attends de la fin de la saison de ton club?
Qu'est-ce que j'attends? Honnêtement, vous allez me trouver très dur, hein, mais j'attends vraiment rien, même pas la victoire forcément en Coupe de France, parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, je vois sur du long terme, je ne veux pas d'un one shot. Je ne veux pas en fait je connais mon président. Et je sais que si jamais on gagne la Coupe de France, ça va fanfaronner, on a réussi à gagner un titre. L'Olympique Lyonnais, une nouvelle fois, vous voyez, qualifié en Coupe européenne, etc. Et moi, en fait, ce que je veux, c'est de la durée. Ça ne m'intéresse pas, les victoires de one-shot, tout simplement. Donc, en fait, si vous voulez, quel est l'après, quelle est la construction, quel est l'avenir? Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, de gagner un titre et puis l'année prochaine, de revivre une saison pareille. Ce qui m'intéresse, c'est de voir une construction sportive cohérente, savoir où on va avec le club, qu'est-ce que veut faire John Textor avec sa Galaxy Club également, enfin, se poser des questions aussi sur le football français, sur le football mondial, avec ces gens qui veulent créer des galaxies partout un peu, les Saoudiens, maintenant John Textor avec Eagle Football. Et moi, tout ça me fait peur. En championnat, on me dira que si on fait une série, on peut recoller peut-être à une Conference League. Ok, pourquoi pas. Gagner un titre de France, ce n'est pas anodin, mais encore une fois, ça aura été dans une saison calamiteuse de l'Olympique Lyonnais. Donc, est-ce que vraiment il y aura une... Oui, il y aura des supporters qui auront 7 jours, mais moi, j'ai quand même un certain recul en me disant, l'après, c'est quoi si c'est pour revivre une saison catastrophique derrière? Le titre de champion de Coupe de France, tu vas vite l'oublier. Donc, moi, ce que je veux, c'est vivre un peu ce que vit Marseille, même si ça va un peu moins bien en ce moment. Mais...
Des émotions, quoi.
Des émotions régulièrement. Enfin, moi, je veux une équipe régulière sur l'année, en fait. Ça ne m'intéresse pas une équipe qui a des absences pendant entre 5 et 10 matchs dans la saison.
Est-ce que tu penses qu'avec ce coach, justement, c'est atteignable?
Non. Moi, je suis. Alors, j'étais pro Peter Bosz. Voilà. Je sais que je me suis beaucoup fait taper dessus dans la. Enfin, pro. Je croyais en cet entraîneur parce que par rapport à ses idées de jeu, maintenant, je pense qu'il y a l'avenir. Je pense que l'Olympique Lyonnais et le PSG sont des frères, entre guillemets, à leur niveau. C'est-à-dire qu'il y a une déconstruction plutôt sportive et il n'y a pas d'anticipation sur l'après, en fait. Et je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus, où il y a une désorganisation interne, où personne n'est à sa place et il n'y a pas de cohérence sportive. Et je pense qu'on se ressemble beaucoup, avec bien sûr des moyens drastiquement différents. Mais moi, je ne crois pas en Laurent Blanc pour rester sur cet entraîneur-là. Je pense qu'il est dépassé. J'y ai cru. Excusez-moi d'être un peu long, mais j'argumente. Hein. J'ai cru en ce changement, parce qu'il est intervenu sur Bein, même sur les débuts d'interview lyonnais, où il a parlé d'un football moderne, beaucoup plus rapide, un championnat français beaucoup plus vertical, beaucoup plus intensif dans l'effort. Et il a parlé
d'une chose. En fait, tout le concept du foot moderne, il l'a appris en Arabie, parce que c'est là, il n'y a que là-bas qu'il trouvait du travail, et là-bas, il a vraiment compris ce que c'était.
Oui, mais je suis d'accord, mais c'est un sujet qui divise du côté des supporters lois. T'en as qui sont pour, t'en as qui sont contre. Et c'est pour vous dire, il a parlé de Lens, il a parlé de ce système de jeu à trois défenseurs avec des pistons, où c'est un jeu beaucoup plus vertical. Mais encore une fois, jouer à un trois défenseurs, c'est aussi un schéma de jeu bien précis, c'est-à-dire des dépassements de fonction, ça se travaille. C'est-à-dire le défenseur, il va se trouver attaquant, il va être remplacé par son milieu qui va prendre sa position. Enfin, voilà, c'est un remplacement de poste, et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'intelligence technique et beaucoup de 1 contre 1. Donc ça se travaille et c'est pas juste tu dis.
Ah, et si tu veux vraiment jouer à 3, il faut les profils qui sont spécifiques, notamment derrière. Enfin,
n'est pas un super. On a Bruno Chéreau pour ça, vous le connaissez bien, hein, il est très bon dans les transferts.
Je vais vous proposer, d'abord en commençant par Réco, est-ce que tu veux rebondir justement sur le futur de l'OL, toi qui connais quand même pas mal la Ligue 1
En tout cas, je suis assez d'accord avec lui sur son analyse par rapport à Lyon et Paris, je trouve qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Là, on parlait de Chéreau, nous on a Galtier Campos qui ont eu le sportif cette année et qui nous ont conduit ça. Ce soir, quand tu regardes le banc de Lyon et le banc du PSG...
Juste deux secondes. Non, mais c'est juste que là, on a un poteau lyonnais qui est là. On fait juste un petit moment Lyon. On reviendra sur Paris derrière. Mais voilà, c'est juste de la politesse. On fait un moment sur Lyon. Mine de rien, c'est tout bête. Hein, mais ce soir, on joue Lyon. Donc, c'est normal de parler un tout petit peu de Lyon. Et pour moi, ça fait complètement sens. Je te laisse continuer, Réco.
Ouais, non, mais par rapport au banc ce soir, c'est une calamité côté PSG. Donc voilà, tu te dis, on t'a filé le sportif à Campos Galtier cet été. Alors oui, il y avait des circonstances atténuantes, il y avait des problèmes, etc. Mais au final, ça a été le résultat ce soir, il est horrible. Maintenant, voilà, quel avenir pour Lyon, je ne sais pas qui est victoire en Coupe de France ou pas. De toute façon, il va leur falloir plusieurs années pour se reconstruire. Même au niveau du centre de formation, il y a quand même moins de joueurs en général, je trouve, qui éclos. Il y a un Cherki qui pourrait partir aussi, donc ça ne va pas être simple. Pour Lyon, qui est victoire ou pas en Coupe de France, il va leur falloir plusieurs années. Il va falloir aussi qu'ils retrouvent des mercatos, je pense, cohérents, recruter des joueurs comme un peu le PSG, hein, des joueurs qui aiment le club et qui vont mouiller le maillot et retrouver de la cohérence, en fait, tout simplement. Donc voilà, après, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur Lyon, mais on est ensemble, ça c'est sûr.
Pas de souci. Tonton, tu veux rajouter un mot sur Lyon ou on passe à la suite?
On peut passer à la suite, je pense pas que j'apporterai grand chose de supplémentaire.
Il n'y a pas de souci. Justement, pour Paris, est-ce que c'est la défaite de trop? Il y a un élément notable. On a vu, alors quelqu'un me disait que ça sifflait pas. Si, ça a quand même un peu sifflé. C'est sûr que on n'est pas dans les broncas de l'époque Lacombe, avec les fumées qui envahissent le terrain. Néanmoins, par rapport au standard Paris, ça a un peu sifflé. On a un calendrier qui n'est pas si simple, même si que ce soit Marseille ou Lens, ils se démerdent pour faire des faux pas à chaque fois qu'ils pourraient revenir sur nous. Est-ce qu'on va continuer en pop finissier jusqu'à la fin de la saison? J'ai envie de te demander, Tonton, est-ce que c'est la défaite de trop?
Défaite de trop pour gagner le championnat, je ne sais pas. Comme tu dis, nos adversaires se donnent tellement de mal à ne pas vouloir gagner cette Ligue 1 que c'est à se demander qui va la gagner à la fin. Mais... Là, quand même, le bilan est assez grave. Galtier, il est sur 2 défaites consécutives au Parc. Il est sur 8 défaites en 17 matchs en 2023. En quoi c'est un rythme d'équipe qui va gagner le titre en fin de saison?
Absolument pas. Donc, les 10 derniers matchs.
Alors, je t'avoue que je ne me suis pas encore amusé à faire cette rétrospective. Et tu vois, là, tu viens de me la faire. Elle met un peu une gifle à la gueule. Ça va être compliqué de gagner le titre si tu gardes ce rythme. Mais en même temps, est-ce que les autres vont suivre le rythme? Ou est-ce qu'ils vont continuer à se faire des cadeaux?
On fait tout ce qu'il faut. Après, c'est super paradoxal parce qu'on n'est pas non plus dans une situation. Alors je me souviens plus de combien de points on a, mais on n'a pas peu de points par rapport à ce
qu'on a. On a 6 points d'avance sur Lens et Marseille.
Oui, mais dans l'absolu, par rapport à d'autres saisons, on n'est pas si loin en termes comptables. Tu fais ne serait-ce que 2 points par match jusqu'à la fin de la saison, tu te retrouves avec un score qui est très élevé. Et pourtant, alors qu'on perd des matchs, Les autres n'arrivent pas en profit de face.
Bah,
C'est une saison
un championnat normal. Il ne faut pas regarder comme comptable. Normal, le contenu aussi. Championnat normal, jamais le PSG finit champion. Après, on a eu énormément de chance aussi cette année parce qu'on gagne à Lille miraculeusement. On a gagné plusieurs matchs cette saison miraculeusement. On a gagné plusieurs fois contre des Troyes, des Angers, etc. de justesse. Donc, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Et on tirait déjà la sonnette d'alarme quand on avait 11 points ou 15 points d'avance. Je ne sais plus jusqu'à combien on a été. Mais déjà là, on disait que c'était inquiétant et que mine de rien, si jamais la réussite nous fuyait, ça pouvait être inquiétant. Et au final, ça l'est. Et aujourd'hui, c'est
match… de réussite. Mais on a de la chance, les combats que les autres n'ont pas.
Tu les perds. Ces matchs que tu les gagnais de justesse, tu les perds aujourd'hui. Et c'est un record de défaites sous les RQSI. On a enchaîné 3 défaites d'affilée. Là, on a 2 défaites d'affilée au parc. Le seul gros match qu'on gagne depuis 2 ans, c'est contre Marseille. Les pauvres, ça faut que ça tombe sur eux. Mais sinon, on ne gagne aucun match. Rennes, Lens, Lille et compagnie, on perd tout le temps. Enfin, à un moment donné, ça suffit. On est éliminé en Coupe de France. On ne domine plus la scène nationale. Et Galtier est toujours là. Galtier est toujours là. Alors que tu vois, au Bayern, ça vient à Nagelsmann, ça prend Tourelle. Chelsea a pris Potter, il le vire. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans ce club pour qu'on reste comme ça à ne rien faire?
Les finances, je suis désolé, mais déjà, tu revends, on a viré Pochettino, ça nous a coûté 18 millions. Attends, et en plus, on a été assez con pour payer 12 millions Nice pour récupérer Galtier, alors que Nice voulait se débarrasser de Galtier pour récupérer, comment il s'appelle, le coach suisse qu'ils ont viré, là, Lucien Fabre. On est quand même les dindons de la farce. Et là, du coup, on va virer Galtier, donc on va lui donner une année de salaire complète.
Il n'est pas encore parti.
Si tu vires Galtier, tu payes 8 millions d'un an de salaire, plus les 3 mois restants. Donc tu repayes 11 millions. Donc là, en un an, tu as dépensé 41 millions pour le duo Pochettino-Galtier.
Non, mais c'est la gestion. La
tu
gestion,
peux pas. C'est juste. En fait, je pense que tu ne peux pas virer Galtier parce que tu n'as pas les thunes et tu attends qu'il démissionne et il ne démissionnera pas.
La gestion de ce genre de truc, ça date pas de cette saison. Hein. On les enquille depuis XXX années. Et je voulais par Rico, toi, par rapport à ce que tu disais, il y a un truc qui est extrêmement intéressant parce que tout le monde était en train de définir l'espèce de 10 jours du danger pour le Paris Saint-Germain. Avec donc, on commence par Lyon, ensuite il y a Nice, Lens, et voilà, c'était les 10 jours où ça se jouait. Mais ce que tu dis est très vrai. C'est-à-dire qu'il y avait des matchs qu'on a gagnés sur le fil du rasoir, excepté les 3-4 premiers matchs en début de saison qui étaient complètement en trompe-l'œil, et des matchs qu'on a gagnés sur le fil du rasoir qui sont des matchs qu'on ne gagne pas, et c'était justement contre des Troyes, contre des Angers, contre des Lorient. Lorient, en plus, qui peut être vraiment problématique comme équipe. Et donc, même la partie facile, pour l'instant, rien n'est acquis. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où, mine de rien, on a zéro certitude. Je voulais justement avoir ton regard, toi, en tant que Lyonnais, sur la situation du Paris Saint-Germain. Comment est-ce que toi, tu la lis, du coup, Ken?
Bon, pour donner un petit peu le soir aujourd'hui, tiens, t'aurais pu parler de Lyon, non, blague à part. Non, que je suis un amoureux du foot, donc bien sûr, je pourrais parler du PSG pendant des heures, mais pour moi, la situation actuelle du PSG, pour vous dire, sur un parlant foot dans ma chaîne, j'ai mis Marseille champion de France avec un Lens deuxième et un PSG troisième, il me semble, vous voyez. Ça avant la défaite de Marseille en championnat. Vous voyez, donc j'ai cru, bon, je me suis dit, bon, bah, finalement le PSG va redresser la barre parce que je me suis dit, ils vont se faire éliminer avec des champions, il va y avoir un affaissement total et je pense que Mbappé ne pourra pas sauver le PSG comme il l'a fait la saison dernière. Étant donné que je pense qu'il y a un plus gros vide dans le jeu. Et tout simplement, je pense que je ne vois pas le PSG en fait s'en sortir en fait, dans cette fin de saison. Et je pense qu'il faut littéralement que ça se casse la gueule pour que vous, que ça puisse reconstruire derrière, pour qu'il y ait une réelle prise de conscience. Je pense qu'il faut qu'il y ait une saison au zéro titre pour que vraiment, et aussi que font vos supporters, enfin vos ultras, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table.
C'est compliqué les ultras, tu sais qu'il y a eu le plan Le Prou et que c'est après négociation et grosso merdo. Non mais je te dis, le club, non mais puis même au-delà de ça, le club tient les ultras par
guerre, mais. Tu sais, je me suis bouffé la tête avec des membres des Bad Guns parce qu'à un moment donné, les banderoles, les ceci, les cela, les chants, ça suffit 2 secondes. En effet, moi j'ai appelé sur Twitter et j'en ai parlé dans des space lyonnais, etc. J'en reviens 2 secondes sur lui, ne vous énervez pas dans le chat.
Mais oui, je dis juste, Alan, calme-toi un peu sur tes commentaires. Tu deviens de plus en plus agréable. Au début, tu es allé l'OL, ça passait, mais si tu continues comme ça, tu seras ban. Vas-y, je te continue.
Ouais. J'ai appelé au boycott vraiment du stade. En fait, à un moment donné, il faut qu'il y ait des parkages vides. faut qu'il y ait des messages. Et surtout, vous, le PSG, où il y a du marketing, il y a une image à garder au sein du club. Je pense que des stades vides avec un prime vidéo qui montre que le stade est vide, je pense que ça aura un impact économique et d'image également sur ce club qui est le PSG. Je pense qu'il faut impacter l'économie, donc et l'image et l'économie du PSG. Je pense qu'il y a un impact, il y a un message qui doit être envoyé très fort, clair et net sur l'image du PSG. Et je pense qu'il faut, il faut du boycott. Il faut du boycott au PSG pour ça.
Le truc, si tu veux, en fait, t'as un peu l'impression d'avoir tout essayé, mais toujours à la sauce, enfin à la manière en fait avec laquelle fait le Qatar, tout simplement. Ils ont une manière de fonctionner qui n'est peut-être pas exactement la même que celle qu'on comprend nous. C'est pas un jugement de valeur, quoi. C'est pas... Et du coup, ils ont un peu tout essayé dans leur cadre, mais quand est-ce qu'ils vont se dire qu'il faut essayer en dehors de leur cadre, un petit peu comme ce qui a été fait à Manchester City avec le groupe Emirati.
À Newcastle, en peu de temps, ils font quelque chose de cohérent. Voilà.
Est-ce qu'ils le comprendront ? Je ne sais pas. On verra. Peut-être qu'ils le comprendront à Manchester, mais là, on ouvre un débat.
C'était le cas au PSG aussi au début, hein, 2013, 2014, jusqu'à 2015.
La Vizy, les Pastore, c'était
cohérent. Il y avait un effectif cohérent. On se fait sortir par le Barça sans avoir perdu. Il n'y a pas eu remontada ou truc bizarre. Tu gagnais le championnat, tu t'es triplé.
Le pire, Ecoba, c'est que tu n'allais pas aussi loin alors que tu jouais mieux à l'époque. C'est... Toute l'incohérence du football.
Des tirages aussi, hein. À l'époque, il faut rappeler, on tire en 2015 le Barça qui gagne la Ligue des Champions, on tire le Chelsea Mourinho, on tire des grosses équipes quand même à l'époque, il faut le rappeler. Là, concrètement, on se fait crosser, il n'y a rien à faire, on s'ennuie devant les matchs.
Mais il y a une immense différence avec l'époque, c'est qu'à l'époque, le patron du foot, c'était clairement Leonardo. Et il y a eu la polémique du coup d'épaule et le Qatar s'est dit plus jamais ça. Depuis on paye ce coup d'épaule. Ou peut-être que ce n'était pas le coup d'épaule, mais je trouve que c'est une bonne symbolique. Dans les commentaires, ça demande de parler de Galtier, mais indépendamment de ça, il y a un débat qui n'arrête pas de passer depuis tout à l'heure. C'est Neymar-Messi. Est-ce que vous voulez ouvrir le débat Neymar-Messi ?
Moi je veux bien. Parce que ça me dérange.
Pour la 30e fois, vas-y.
En fait, il ne faut pas tout mélanger. Il y en a certes qui disaient oui, on joue mieux sans Neymar, oui, mais ça, c'est les pros. Les promessies ou les machins. Non, mais à un moment donné, on n'a jamais dit qu'on jouait mieux sans Neymar. La seule vérité, moi, à titre personnel en tout cas, c'est qu'on joue mieux avec deux devants seulement que trois, je trouve. Il y a plus d'équilibre, il y a plus de cohérence. Je trouve que le milieu, si tu mets trois, on va dire, milieux axiaux, tu tiens un peu mieux ton match, tu as plus de gars pour combattre, je trouve. Mais par contre, je préfère le duo Mbappé-Neymar que le duo Mbappé-Messi, c'est tout. Après, je pense qu'il y a un problème aussi avec Messi. Je pense que si on avait un Messi version Argentine ou version Barcelone, avant qu'il parte, ce que tu veux, ça irait quand même un peu mieux aussi. Là, ce soir, tu vois clairement, et même les matchs d'avant, tu vois que Messi n'a plus envie. Donc, il n'y a même pas besoin en fait, de comparer ou de parler du match de Messi parce que Messi n'a plus envie. Messi ne joue pas. Il est sur la pelouse parce qu'il est aligné, mais il ne joue pas. Donc, limite, ça ne sert à rien de parler de ses performances, de parler des tribunes, de parler de ses frappes en tribune, de parler de Neymar, parce qu'il ne joue plus. Il ne joue plus, donc voilà.
Ah mais Ecoba, je veux juste faire une parenthèse, t'as pas le milieu de terrain de l'Argentine, on a mis en termes de mort de faim,
clairement.
Technique. Messi, là, on va pas se battre au PSG. Alors certes, d'un point de vue image, d'un point de vue amour, tu seras plus content d'avoir un Messi version Argentine, mais t'as pas le milieu de l'Argentine. Quoi.
Oui, mais il n'y a tout simplement pas
l'équipe qui joue pour, parce que Messi, comme au Barça, il a besoin d'une équipe qui joue pour lui. L'Argentine, si ça fonctionne, c'est parce qu'il a 10 mecs qui sont comme ça devant lui et qui jouent pour lui sur le terrain. Au PSG,
aujourd'hui, tu dois avoir 10 mecs qui doivent jouer pour Mbappé.
Il y a quand même un truc d'envie avec Messi. On a vu un Messi qui a eu des envies, qui par moments, il avait des envies, et notamment un peu avant la Coupe du Monde, où tu sentais que là, tout à coup, il s'impactait. Enfin, il y a quand même un truc où il a un peu pris le PSG pour son en entraînement, il y a un moment quand même, faut appeler un chat et il y a cette problématique. Maintenant, moi sur Neymar, après, enfin, je t'ai pas fait réagir, tonton, je te fais réagir juste après, justement, juste après ma remarque. Neymar, c'est très bien, mais quand est-ce qu'il sera là pour les matchs importants? Maintenant, je te laisse réagir, tonton. Si tu voulais.
Mbappé, oui, non, bien sûr. Mbappé, Neymar, Messi, en fait, c'est pas une histoire de nom, c'est une histoire de gestion. Je veux dire, tu as pris trois coqs, tu les mets dans le même poulailler et tu dis vas-y. Allez, vas-y, regarde, il y en a, il a 93 sur FIFA, l'autre il a 89, l'autre il a 93. Et après tout, Messi, il a 4 Ligues des Champions, Neymar, il a déjà gagné, Mbappé, la Coupe du Monde, c'est sûr, on va la gagner. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Et le problème, c'est que, logiquement, t'en gardes un des trois. t'en gardes un des trois et tu construis autour. Sauf que nous, on a les trois. Et à trois, je suis sûr qu'on leur a à peu près promis la même chose. Parce que quand Neymar signe en 2017, on le signe pour être le mec qui va avoir le ballon d'or après Messi. Parce que, hein, il avait de l'ombre au Barça sous Messi. Ok. Donc il vient chez nous pour ça. Il s'est passé ce qui s'est passé, il n'y est pas arrivé. Tout n'est pas de sa faute, mais les faits sont là, il n'y est pas arrivé. Mais Mbappé, entre-temps, bah, lui, quand il prolonge, il demande des garanties. Il demande d'être le numéro un. Logique. Et quand tu signes Messi, Messi, tu ne le signes pas pour lui dire, écoute, on te recrute, mais en fait, il y a déjà Neymar et Mbappé qui sont les têtes du projet. Toi, tu vas te leur faire valoir. Ça n'existe pas. Messi, si tu l'as fait venir, je pense que tu l'as... Bon, en même temps, c'est pas comme s'il avait le choix d'aller autre part au moment où il signe chez nous, mais tu l'as donné quand même un minimum de garanties pour lui donner l'envie de venir chez toi. Donc là, maintenant, tu travailles le dossier Messi que le club veut prolonger. Donc, qu'est-ce que tu vas lui promettre à Messi? Qu'est-ce que tu vas promettre à Mbappé? Qu'est-ce que tu vas promettre à Neymar? Bon, Neymar, tu n'as pas besoin, il est sous contrat jusqu'en 2027. Il sera assez con. Ce n'est pas comme s'il allait recevoir une meilleure offre que celle du PSG qui va lui donner l'envie de quitter le club. Pourquoi quitter le club? Non, Neymar, je pense qu'il quittera le PSG que s'il estime être gagnant à quitter le PSG. Actuellement, il n'y a pas de...
Il n'y a aucun club qui s'alignera par rapport au salaire. Et même,
moi, je ne parle pas que du salaire. Il n'y a pas que le salaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un club qui peut dire à Neymar qu'il va lui offrir quelque chose qui est plus intéressant pour lui que le PSG et dans tout ce que ça englobe, que ce soit, tu peux parler d'argent, tu peux parler de foot, tu peux parler de cadre de vie, de tout ce que tu veux? Je ne pense pas. Mais s'il est en fin de contrat, Mbappé, c'est pareil. Son contrat, il ne court pas jusqu'en 2030. Donc, il faut que tu prennes une décision. Tu peux en garder un des trois et construire autour. C'est faisable, mais les trois, ça ne marche pas. Il faut que tu aies des joueurs complémentaires.
On va laisser Ken
réagir. Pour le chat, on parlera d'Mbappé après, mais on a le droit de parler de Messi, on a le droit de parler de Neymar, sans qu'à chaque fois, il y ait, ouais, on ne parle pas d'Mbappé. On va en parler, mais chaque chose en son temps.
C'est pareil. Hein.
Personne ne défend Mbappé, personne ne...
Mais vas-y, Ken, il rongeait son frein depuis tout à l'heure.
Non, parce que c'est très intéressant ce que vous dites et le sujet. Enfin, oublions tout le côté marketing, Mbappé, on sait pourquoi il y a Mbappé, Neymar et Messi dans ce club qui est le PSG. Maintenant, il faut reconstruire avec Mbappé, pour moi, à mon sens, bien sûr, à mon avis, aiguisé de supporter extérieur du football, enfin, du PSG, quoi. Pour moi, honnêtement, il faut reconstruire, il faut aller chercher des joueurs, je parle vraiment d'avenir du côté du PSG, chercher des joueurs qui n'ont pas encore d'histoire écrite avec un club, et qui ont envie de se dépouiller dans un projet, le fameux terme projet me dérange, mais c'est celui qui est à la mode actuellement. Mais voilà, aller chercher des joueurs déjà de qualité, parce que le PSG doit recruter des joueurs de qualité, pas forcément déjà de renom, qui ont une histoire comme les Sergio Ramos, comme les Messi, comme les... À la limite, Neymar, à la limite, tu pouvais te dire que c'était une bonne idée à l'époque, tu ne savais pas qu'il allait devenir le Neymar d'aujourd'hui. Voilà, vraiment, recruter des joueurs qui sont professionnels de 1. Et ça, honnêtement, c'est que de l'observation, il faut avoir des gens compétents qui... aller voir l'entourage des joueurs, comment ils s'entraînent, comment ils se comportent dans un match, comment ils se comportent dans l'entraînement. On a eu un Bernard Alarcon avec un Marcelo qui allait chercher des joueurs au Brésil. Et vous savez très bien qu'au Brésil, il y a deux types de joueurs, les prêcheurs, ceux qui sont dans la religion, et puis les fêtards. Alors, Ronaldinho a été un fêtard, attention, et ça n'a pas empêché que c'était un immense joueur. Hein. Donc vous avez eu Kaka qui était un prêcheur, qui est devenu un excellent joueur. Donc encore une fois, c'est... Si tu as dans le club pour aller recruter les joueurs, les superviser, etc. Et pour moi, le PSG n'a pas encore compris, et ça c'est tout le problème du Qatar, c'est qu'ils ont une ambition marketing, et pour moi, c'est quelque chose de réussi, mais il faut vraiment qu'ils le mettent de côté maintenant, et qu'ils se concentrent dans la construction d'une cohérence sportive. Ça, c'est des mots que vous rabâchez, je suppose, de semaine en semaine, de match en match. Mais voilà, avec des joueurs qui ont la dalle de venir remporter des titres et des trophées avec le PSG. Et ça se cherche.
On est d'accord. Après, la problématique, c'est que justement, cette gestion marketing, comme tu le dis, nous a amené à signer des contrats. Déjà, il faut voir combien on paye.
C'est pour ça, pour moi, qu'il ne faut pas taper.
Je laisse moi finir. Ouais, quand on paye nos joueurs moyens, déjà, ça, c'est hallucinant. Et ensuite, Neymar, enfin moi, je ne suis pas le plus convaincu par le joueur, mais je comprends qu'il y en a qui sont en kiff. Mais c'est un joueur qui, fondamentalement, tu l'as pour 4 ans, là. Et c'est un joueur qui, jusqu'à maintenant, excepté une campagne, a été absent de toutes les campagnes importantes de Ligue des Champions. Le nombre de matchs qui compte, alors je suis d'accord, il n'atteint pas le niveau de Renato Sanchez en blessure, mais par exemple, tout le monde rageait contre Pastore, Neymar, c'est deux fois plus de blessures que Javier Pastore. En comparaison de temps, c'est beaucoup plus de blessures. Et donc, il y a un vrai problème. Mais le truc, et c'est comme l'a rappelé Danton, Neymar, il est sur un contrat long. faire bouger Neymar, c'est extrêmement compliqué. Neymar, il y a énormément de doutes pour les autres clubs, ne serait-ce que tout simplement, même si un club adore ce joueur, le fait qu'il se blesse aussi souvent est une vraie source d'interrogation quand tu dois faire un investissement de cette taille-là. Et c'est un point bloquant. Et la liberté que tu es en train de nous souhaiter, Ken, c'est une liberté qui, malheureusement, par les situations contractuelles, est difficilement accessible. Alors, je vais juste réagir à Apollon qui disait Mbappé, il lui reste qu'un an de contrat. Oui, bien sûr, mais on se retrouve dans cette situation où, justement, on avait un joueur qui était très prometteur, qui etc., etc., et on ne lui a pas donné les clés du camion. Bah, Tonton, je trouve, très, très bien expliqué en faisant les mêmes promesses un petit peu à tout le monde. Et tu te retrouves, effectivement, avec une situation contractuelle délicate pour lui, avec un salaire complètement hallucinant, enfin, quelque chose de complètement ubuesque et quelque chose de complètement ingérable au bout du compte.
Après, les gars, je fais une toute petite parenthèse très rapidement. Je trouve qu'il y a encore deux autres symptômes qui nous ressemblent à l'Olympique Lyonnais PSG. Il faudra qu'il y ait un environnement beaucoup plus sain également dans votre club comme dans le nôtre. Et parce qu'il y a des joueurs qui sont trop à l'aise, la soupe elle est trop bonne. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une institution qui revienne sur les devants de la scène à un moment donné, avec cette gestion des échelles des salaires, donner à des joueurs vraiment plus que moyens. Ils ont des salaires trop mirobolants, du n'importe comment. Il faut qu'il y ait le patron revienne sur les bancs de la scène et instaure une autorité, parce que là, ça va plus. Sans parler de l'extra sportif qui se passe au PSG également. Mais,
totalement. C'est des faux débats. La faute de Messi ou la faute d'Mbappé, ou vous parlez pas de Messi, vous parlez pas d'Mbappé. Oui, évidemment, mais le problème, c'est l'étage, c'est tout là-haut et puis jusqu'en bas. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, pour moi, la base du football, le plus important, c'est le mouvement et le milieu de terrain. Déjà, le milieu de terrain, c'est hyper important. Depuis le départ de Thiago Motta, ça n'a jamais été remplacé. On a un
Matuidi,
Matuidi, pareil. On a un milieu de terrain hyper fébrile. Vous imaginez qu'à un moment donné, on avait Matuidi, Motta, Verratti, Rabiot, Pastore. Ça n'a jamais été remplacé, tout ça. Le problème, c'est que le QSI ne pense plus sportif, n'a jamais peut-être même pensé sportif, et c'est que marketing. Du coup, ton mercato, à chaque fois, c'est basé sur des stars, et même si tu as des mauvais résultats, on va t'endormir avec des stars. Mais au final, ton équipe, on le voit encore ce soir, et on l'a vu à tous les matchs, à un moment donné, dès qu'une équipe accélère, on se fait trouer. C'est comme si on n'avait pas de milieu de terrain. C'est comme si on avait nos trois attaquants qui, déjà de base, ou nos deux attaquants, peu importe, ne font pas le taf défensif. Donc déjà, eux, ils sont squeezés direct. Même à la perte de balle, si le gars est juste à côté, il ne va même pas courir, que ce soit Messi ou Mbappé. Puisque si je dis que c'est que Messi, on va me dire, oui, je dis pas Mbappé. Mbappé, c'est pareil. Et derrière, pourtant, tu as une ligne de 3 ou une ligne de 4 qui se fait transpercer pareillement. En une passe, il n'y a plus personne au milieu. Et on se retrouve avec 2-3 mecs de l'équipe adverse face à nos défenseurs centraux. Et pour peu qu'ils ne soient pas en forme, ou que ce soit des El Shaddai ou Danilo soit dans un mauvais jour, bah, tu te fais transpercer. Voilà. Et le problème, c'est que quand tu regardes l'effectif du PSG, il n'y a aucune homogénéité. Déjà, il n'y a pas de banc, mais même dans ton 11 de départ, il n'y a aucune homogénéité. Donc tu peux pas, quand on dit Mbappé fait un match de merde, oui c'est vrai, mais il est tellement seul sur le terrain. Pareil pour un Messi, oui il fait un match de merde, mais est-ce qu'il a les solutions sur le terrain? Les Vitinha et compagnie au milieu de terrain, oui ils font un match de merde, mais est-ce qu'ils peuvent fondamentalement faire mieux? Les Nuno Mendes, il est bien seul le pauvre d'ailleurs, lui pour le coup, chaque match qu'il fait il est très bon, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus, tu vois? Il y a tellement de joueurs, c'est bien de taper sur eux individuellement, mais des fois…
On n'est pas dans FIFA.
Exactement. Et pour moi, la responsabilité, elle est là-haut et jusqu'en bas.
Mais ça, bien sûr. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que ça, on le dit à chaque fois. On le dit à chaque fois. Et là où ça devient intéressant, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas. Plus à force de faire d'essayer d'imaginer des trucs et de te rendre compte que ça ne marche pas, bon, on a du mal à imaginer. C'est comment faire alors qu'il y a cette contrainte que tu as les Qataris, que tu as le 36-15 Nasser. Alors, je ne pense pas qu'il y ait le 36-15 Texor. C'est peut-être la différence qu'il y a avec l'Olympique Lyonnais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, avec les joueurs qui ont la ligne directe de Nasser et tous les échanges qui sont produits comme ça. Ça, c'est très spécifique à Paris. Mais voilà, c'est comme ça. Mais là, par contre, où je te relance, ce n'est pas le milieu le problème. Tout le monde dit, tu trouves le milieu. Je pense que tu mets dans cette équipe, tu mets les deux meilleurs milieux du monde, du moment, l'association qui marche super bien, etc. T'as tellement pas d'assises derrière, t'as tellement pas, justement, tu parles de, enfin, tu sais, le fait de jouer en bloc équipe, le pressing commence par en haut, c'est parce que par en haut, t'auras gêner ne serait-ce que des passes évidentes, que tu te retrouves avec un milieu qui n'est pas à ce point exposé. C'est parce que le milieu n'est pas à ce point exposé que la charnière n'est pas à ce point dépassée, etc. Et t'as pas la réponse devant, t'as pas la réponse derrière, et c'est pas en résolvant au milieu, c'est d'une manière générale, ouais, c'est une mentalité qu'il faut trouver.
Quoi. Après, Trias, t'as des gens qui sont pas à leur
niveau. On va laisser parler tonton un peu.
Excuse-moi.
Par rapport aux commentaires, par rapport aux excuses, je trouve absolument pas d'excuses, mais c'est juste que pour moi, en fait, c'est pas le problème, un seul
arrête de lire les commentaires et qu'on va laisser parler tonton maintenant.
Non, au-delà de ça, je veux dire, de toute manière, avant qu'on parle de tel ou tel joueur, de tel coach, de tel DS, il y a des carences qui sont visibles quand tu regardes les matchs. Qui était le 6 ce soir?
Un coup Marquinhos, un coup Vitinha.
Voilà,
coup...
ok. Donc ça, on n'a pas de vrai 6. C'est un problème déjà. Attends, oui, mais ça, c'est des trucs qui sont visibles depuis le début de la saison et on ne le résout pas. C'est qui le 9 qui était dans la surface ou alors qui occupait la défense?
Il n'y en avait pas.
Attends, un moment, je te jure, un moment, je m'en suis rendu compte, tu vois, je regardais le match avec ma copine, un moment, j'ai dit, attends. Je dis, tu peux identifier le joueur qui est dans le rôle de 9 là, dans la surface là? Elle m'a dit, mais c'est Verratti, qu'est-ce qu'il fout là? Eh ben ouais, qu'est-ce qu'il fout là? On n'a pas de 9.
La même réflexion.
Tu peux parler du niveau de Messi, de Neymar, de Mbappé, de tout leur accomplissement dans le foot, de tout leur potentiel, de leur note sur FIFA, de tout ce que tu peux accomplir en termes de technique et de tout ce que tu veux. Il n'y a pas de vrai 9. Il n'y a pas de vrai neuf dans la surface, il n'y a pas de vrai neuf qui occupe la défense. C'était quoi le taf de Lovren et de Loukeba et de Diomandé ce soir? Mais Lovren, il s'est fait chier. Il a même pu faire une petite main pépère. Il s'est fait chier parce qu'il n'y a pas de neuf qui les fait chier. Et en face, il y en a un. Alors en face, ça joue à deux attaquants et tu as un neuf qui fait chier. Tu as un neuf qui fait chier. Et nous, on n'en a pas. Et à un moment, c'est bien de parler de « Ouais, mais Messi, il faut le garder, Neymar, il faut le garder. Oui, il faut acheter un Bernardo Silva, un je sais pas qui. » Tant qu'on n'achète pas un neuf et un 6 au PSG, ça, c'est des trucs. Tu vois tout de suite sur le terrain que ça manque. Et si ces joueurs-là, à l'instant T, tu les as, tu fais pas les mêmes matchs. Même si dans le contenu, t'es pas bon, tu fais pas les mêmes matchs parce que tu as des joueurs qui te résoutent des problèmes qui sont visibles à chaque match.
Oui,
c'est... Donc on va faire quoi? On va prolonger Messi, on va pas vendre Mbappé, on va pas vendre Neymar. Non, faut pas les vendre, ils sont trop forts, surtout pas. On va pas vendre Verratti parce que c'est pareil, il est trop fort. On va pas vendre Marquinhos, on va vendre aucun gros salaire. Comme j'ai dit la dernière fois, lors du dernier live hein, où je me suis énervé, on va garder les mecs qui ont des petits, on va vendre ceux qui ont des petits salaires, on ne va surtout pas recruter de 6, on ne va pas recruter de 9, et on va recruter encore des joueurs qu'on empile par centaines. Qu'est-ce que ça te dirait qu'on, ça vous dit, on recrute un milieu créateur, ou on recrute un milieu qui est grand technique et qui va se projeter, mais qui n'est pas 6, et on va le faire jouer en 6, ça vous dit, on fait ça? Ben, c'est ce qu'on va faire encore cet été, les gars. Je le dis au cas où. Hein.
Je suis complètement d'accord. C'est juste
très rapidement, je prends la parole très rapidement. Très rapidement, bah ouais, c'est il y a un moment où, si tu veux, quand t'es en chien de certitude, avant de vouloir faire du Guardiola, joue au foot simplement. Et commence par jouer au foot simplement.
On a des
réponses évidentes à certains postes qui tout à coup t'amèneront des circuits, etc. Je voulais vous faire réagir sur quelque chose, mais Ken, tu voulais réagir là-dessus ou c'était sur... Parce que sinon, je voulais vous faire réagir sur un point précis du match. C'est Marquinhos du premier quart d'heure. Le mec, il est et central, et 6, et 8, et 10 par moment. Tu as l'impression qu'il joue au basket en faisant des retours en permanence où il est toujours en retard. Et clairement, c'est des indications de coaching, parce que sinon, enfin, tu as ton central qui se met à faire ça sur le terrain, tu es coach, tu le sens, c'est pas possible. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Qu'est-ce que c'était le bordel? Vas-y, Réco, lance-toi là-dessus. Comment expliquer?
Non, j'ai rien compris. Non, mais j'ai rien compris. En tout cas, c'est un poste qui peut lui convenir, parce qu'il a été bon au milieu, et de faire cet ascenseur un peu en libéraux et en 6, ça pourrait convenir, et je trouve que c'est toujours peut-être mieux qu'un Verratti 6, parce que pour moi, Verratti n'est absolument pas un 6 et t'apporte aucune garantie défensive. Mais ça a duré quoi? Ça a duré 20 minutes, et après, terminé, je crois, et il ne le faisait plus. Donc, j'ai absolument pas compris le schéma tactique, mais de toute manière, avec Galtier, on ne comprend pas ce qui se passe tactiquement. Voilà, on ne va pas épiloguer 107 ans, mais on l'a répété de nombreuses fois, on ne comprend clairement pas ce qui se passe, on change de système 50 fois, les joueurs ne jouent pas à leur poste, il te manque tellement de monde aussi que c'est compliqué de l'accabler à 100%, comme l'a dit Tonton. Ce soir, le manque d'un 9, et on l'a déjà vu 100 fois avant, le manque d'un 6, d'un 9, c'est criant. À un moment donné, toi tu disais Verratti, moi je cherchais justement ce 9 et j'ai vu Hakimi venir, je me suis dit mais on est où là? Genre c'est pas possible. Et c'est pour ça justement que par rapport à Mbappé et Messi, oui, j'excuse pas du tout leur match, oui, j'aimerais bien que Messi dégage de notre club, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Comment tu veux qu'il combine? Il n'y a personne. La défense, elle est tellement haute, elle n'a aucun souci à se faire. C'est compliqué. Alors oui, on attend bien mieux des deux meilleurs joueurs du monde, comme on les appelle. Je suis d'accord totalement. Mais malheureusement, il manque trop de profils au PSG, que ce soit des milieux de terrain, un 6, un 9, et tu peux aller nulle part comme ça. Après, ils doivent bien mieux faire, on est d'accord. Mais quand tu as une équipe qui n'a plus envie, des joueurs qui ne sont absolument pas concernés, et un Galtier qui est complètement aux fraises, perdu depuis très longtemps, et qu'on laisse toujours en poste, bah voilà, on voit les matchs qu'on voit depuis un moment.
Il y a énormément de rumeurs qui disent que les joueurs appellent Galtier prof de sport et que la communication pour le dire simplement, est complètement rompu entre le coaching et les joueurs qui sont pas, c'est pas genre ils auraient lâché le coach, mais bon, c'est qu'ils sont un peu en roue libre, mais ce ne sont que des rumeurs. Enfin, tant que c'est pas officiel, moi j'en parle pas trop. Et attends, bah on va laisser réagir Ken qui voulait réagir tout à l'heure. Ou peut-être si tu voulais.
Non, mais justement, moi c'est je pense que, alors, une fois, je suis pas supporter du PSG, les gars, mais je pense que vous pourrez refaire la même chose avec le coach l'année prochaine. Ça peut être Zidane, ça peut être n'importe qui. Si derrière il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de soutien de la direction avec cette starification du foot et des joueurs qu'il y a au PSG, vous aurez la même chose à un moment donné. Vous voyez tous les derniers coachs du PSG, ils ont tous pris 10 ans en quelques mois. C'est pas anodin à un moment donné. Galtier, la cantine elle est bonne, le mec il a pris du poids, il a vieilli, enfin, t'as l'impression, enfin, peut-être parce que la soupe elle est trop bonne ou qu'on est là, je sais pas, mais à un moment donné, tout ça c'est pas anodin. Excusez-moi pour le mot, hein, c'est Bruno Chéreau qui me l'a mis dans la bouche en début de saison, mais non, mais à un moment donné, c'est criant, tu pourras mettre, je pense qu'on regarde vos vidéos de l'année dernière, ce que vous disiez sur Pochettino, je vous suivais, donc c'était la même chose. Je pense que à un moment donné, chez Laurent Blanc, certains, ça a été la même chose. Tourelle, ça a été la même chose pour certains. Demain, vous pouvez avoir Nagelsmann, vous allez dire la même chose si ça ne fonctionne pas. C'est qu'à un moment donné, moi, je prends un exemple, et Dieu sait que je n'aime pas cette équipe, mais vous avez Marseille, Longoria, il a dit « Comment tu veux que ça fonctionne, Igor Tudor ?»« Ok, ça va être comme ça, et ben on va t'aider. » En début de saison, Payet, Guendouzi sont partis pleurer dans le bureau. « Non, non, hey, c'est lui le patron, d'accord ? Vous passez plus par moi. » Il a été soutenu et ça a fonctionné. Donc à un moment donné, l'institution doit redevenir sur les devants de la scène et point barre. Et tant que le PSG, enfin, vous voyez tous les extrasportifs qu'il y a, Hakimi n'a jamais eu ses extrasportifs ailleurs. Enfin, il y a plein de choses qui se passent au PSG. Quand un joueur arrive au PSG, il perd toute notion du temps, j'ai l'impression, toute notion du foot. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un problème de forcément peut-être de recrutement, ce n'est pas un problème forcément de peut-être de personnes compétentes, mais il faut que là-haut ça fonctionne. Et quand là-haut ça fonctionnera, et bien, par la suite, tout va découler et se remettre à l'endroit, je pense. Voilà.
Juste réagir très rapidement au message de Freedom, mais c'est un peu ce qu'on dit tout à l'heure. Si tu peux construire autour de Mbappé, tu peux avoir un joueur qui aura un rôle un peu à part dans l'équipe. Le problème, c'est quand tu veux en avoir trois et ça part un peu dans tous les sens. Est-ce que vous vouliez...
Par contre, Rias, juste, je dirais, par contre, pour moi, Galtier, c'est pas l'homme de la situation.
Ça, ah, mais Galtier, il y a un problème de compétence, en fait. Si tu veux, c'est
évidemment.
J'ai beau dire que ce sera n'importe quel entraîneur,
quand Laurent Blanc était le coach du Paris Saint-Germain, c'était pas Laurent Blanc, c'était comment il s'appelait, le vrai coach? J'ai oublié son nom.
Jean-Louis Gasset.
Voilà, c'était Jean-Louis Gasset. On a découvert que Laurent Blanc était moins bon que Gasset, et il s'avère que Galtier se fait fesser par Laurent Blanc. Non, mais Laurent Blanc, c'était un bon leader d'homme, a priori, à Saint-Etienne, etc. Mais même à Paris, on a vu qu'il se défausse. C'est un mec qui est capable de faire des bonnes analyses, mais il arrive. C'est marrant, il a des bonnes lectures de match, et il n'a jamais les réponses. C'est affolant.
Non, mais de toute façon...
Non, il est zéro, quoi.
Non mais Dreyas, on en a parlé déjà, je veux dire, il y a presque un an, on a fait une vidéo avec Basto, on a dit pourquoi Galtier n'allait pas réussir au PSG. On va faire la suite, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. À un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Est-ce que le Bayern Munich aurait pensé à Galtier après avoir viré Nagelsmann? Est-ce que Manchester City virait Pep en se disant « Ah purée, il faut que j'aille récupérer Galtier ». Est-ce que le Real Madrid est intéressé par Christophe Galtier? Attends, est-ce que le Real Madrid connaît même Christophe Galtier?
Mais même le truc qui est fou, c'est qu'il y a des fois, il y a effectivement des clubs, des gros clubs qui prennent des risques, mais ils prennent des risques avec des jeunes coachs prometteurs. Là, tu as un gros club qui prend un risque avec un coach qui était 6e, 7e en se faisant laminer en Europe à Saint-Etienne.
Mais tu voulais un coach français qui performe en Ligue des Champions, il y avait Rudy Garcia et Bruno Genesio. Eux, ils ont performé en Europe, contrairement
à Galtier. Mais Garcia est très très loin devant, il n'y a même pas photo.
Mais même Gourvennec a fait mieux que Galtier en Ligue des Champions, c'est dire.
Un coach cohérent. Est-ce que vous vouliez rajouter?
C'est à l'image. C'est à l'image de ce que dit Danilo en conf de presse à la fin.
Ah, j'ai même pas eu le temps de le regarder.
On n'a pas fait de mouvement, on n'a pas écouté les consignes. Il a dit, ça s'est pas bien passé. Bah normal, personne n'écoute les consignes.
Mais quelles sont les consignes?
On n'a pas mis le mouvement qu'il fallait. mais t'imagines. Et Danilo, Dieu sait qu'il dit la vérité, lui. Il n'y a pas de. Tu vois, il ne mâche pas ses mots. Quand on lui pose une question, il répond. Donc t'imagines. Un mec comme Danilo qui te dit personne n'écoute les consignes, tout le monde s'en fout, il n'y a pas de mouvement.
C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'a priori, il l'appelle prof de sport dans le vestiaire. Et il ne l'écoute pas.
Ben ouais, parce que mais c'est pour ça que c'est grave. Pour
l'instant, c'est des rumeurs, mais a priori, c'est vrai. C'est des rumeurs qui sortent à droite à gauche et qui.
Ouais, il appelle pour lui demander d'aller chercher du café, quoi.
Vincent, on va pas rouvrir le dossier Pochettino, on sera jamais d'accord dessus, mais si Pochettino, les gros matchs, on était à des années-lumière de ce que Galtier a proposé, il n'y a même pas photo et c'est juste.
Il a quand même fait finale de Ligue des Champions.
Même les gens qui n'aimaient pas Pochettino, qui le détestaient pour ce qu'on a vu en championnat, le reconnaissent sans embâge. Pochettino avec un effectif qui n'était pas ouf. Tout le monde n'arrête pas de vendre Paredes. Regardez ce que fait Paredes avant d'arriver à Paris. Regardez ce que fait Paredes après arriver à Paris.
À la Juve.
Nous, est le seul à avoir su faire jouer
Paredes. Tactiquement, sous l'art Pochettino, tu voyais quelque chose. Il y avait quelque chose.
Et dans les grands matchs, tu posais des vrais problèmes aux équipes en face.
Enfin, tu transcendais.
Mais on va pas rouvrir le dossier Pochettino. Oui, on a déjà du Galtier qui est un peu léger, mais qui c'est le truc qui t'écœure alors que tu n'as rien en bite, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous voulez rajouter une chose individuellement sur un joueur? De toute façon, on remercie
Swapper pour ce magnifique but.
Franchement, voilà. Tonton le dit vachement mieux que moi. J'avais même pas vu. Faute à moi. Et d'ailleurs, tout le monde, j'en profite. N'hésitez pas, lâchez votre petit like, vous retournez votre téléphone, vous appuyez sur le like, ça nous aide pour référencement. Ouais. On compte sur vous.
Moi, j'aimerais parler d'un joueur.
Juste, il faudrait qu'on réponde quand même aux commentaires.
Ouais, alors,
si tu veux, je te dis, Darias, il a dit, oui, on a fait un bon match, mais je pense que si on a ce pénalty à la fin de la première seconde mi-temps, c'est différent pour la motivation.
Alors, ouais, c'est un faux débat.
Il y a une erreur d'arbitrage, mais c'est un faux débat. Je veux dire, si tu me dis que parce que le pénalty n'a pas été accordé, c'est pas juste tu as boudé, ils ont quel âge les mecs sur la pelouse? On parle de poussins ou de mecs qui sont bien payés pour faire leur boulot là? Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.
Et même pire que ça, en fait. C'est-à-dire que tu vois, le truc, en fait, c'est que tu veux, c'est que tu mets le mot motivation dedans. C'est-à-dire que tu mets ce but, des matchs où on a mis un but et où on menait 1-0, que ce soit par un penalty ou par le jeu, t'en as vu combien de matchs comme ça où tout à coup, en deuxième mi-temps, on ressemble à rien.
Voilà.
Ce qui suit, on ressemble à rien. La problématique, justement, c'est la motivation, indépendamment que tu mettes le but ou pas. Alors bien sûr, après l'arbitre, etc. Mais c'est pas. Mais non, c'est ça.
Mais vous pensez qu'on aurait une analyse différente du match si le penalty avait été au fond?
Est-ce que tu as eu le mérite, même dans l'attitude, dans l'abnégation, d'avoir mérité de remporter ce match parce que tu n'as pas eu le pénalty? Non. Voilà. Encore une fois, tu aurais pu avoir des remords si tu faisais 15-20 poteaux et que grâce à ce pénalty, et que tu aurais mangé Lyon tout le match, mais ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, ce pénalty, c'est un faux débat. À un moment donné, c'est pour cacher la misère, ça.
Complètement. Non, mais de toute façon, par rapport au coach, on peut mettre n'importe qui, on est d'accord. Oui, il faut un entraîneur à poigne, voilà, ça c'est sûr. Il faut quelqu'un qui sache aussi gérer et aborder les grands matchs, gérer les égos. Par contre, on est d'accord, il n'y a pas besoin de le répéter 50 fois. Ce n'est pas parce qu'on parle à chaque fois de Galtier que la solution, c'est changer l'entraîneur. On est bien d'accord qu'il faut un meilleur entraîneur, mais que ça passe par une reconstruction de l'effectif, même de l'organigramme, etc., etc., la fin des passes droits, la fin de plein de choses. On est d'accord là-dessus quand même, il faut le répéter, parce que dès qu'on va parler de Galtier, on va dire « mais la solution, c'est pas que l'entraîneur ». Mais oui, on sait, il y a un tout.
Oui, à un moment, excusez-moi, on va pas le répéter à chaque fois qu'on entame un argumentaire de redéfinir tous les problèmes du club. On dit dans chaque live, les frères. On le dit dans chaque live. Si on doit le dire à chaque fois qu'on commence une phrase, vraiment, on s'en sortira pas.
J'ai l'impression qu'on est sur ma chaîne, on radote de...
Non, mais à un moment, quand une chose est évidente, ça sert à rien de la répéter. On sait que le club, il est mal géré. Maintenant, parmi les choses qui sont mal gérées au club, on peut changer quoi?
C'est ça le débat. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Parce que de toute façon, on n'est pas décisionnaire. Donc, on est là pour essayer d'imaginer des solutions dans un univers où, a priori, on a du mal à les trouver et voir par où ça pourrait passer. Après, bien sûr, hein, si on l'avait à notre manière, les Qataris seraient là, ils donneraient plein d'argent, mais surtout, ils auraient placé la responsabilité des sportifs à des gens qui sont cohérents et qui savent fonctionner dans ce contexte-là, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire.
Moi, j'ai un petit regret quand même pour changer un peu de disque. J'ai un petit regret, c'est quand on parlait de changer d'entraîneur justement avant le Classico, avant le Bayern, tu vois, dans cette période-là.
Oui, quand je disais qu'il fallait changer à ce moment-là, oui, qu'il fallait
exactement, le virer, tout à fait, qu'il fallait changer à ce moment-là. Mais la vérité, on aurait pu, parce que qu'est-ce que ça aurait changé? Il aurait pu avoir que du plus. On n'aurait pas pu être plus dans la merde qu'aujourd'hui.
Ah, tu mets Sacramento pour la fin de la saison, c'est bon.
Tu mais peux, bon, non, mais en vrai, de vrai, qui était plus nul que Galtier sur le marché.
Regarde le Bayern. Ils ont changé, ils ont pris Tuchel. Derrière, ils battent Dortmund. Même Chelsea, là, ils sont encore en Ligue des Champions, machin. Ils virent Potter, ils lui laissent pas le temps. Enfin, ils lui ont laissé quand même un petit peu de temps. Mais tu vois, le Bayern, Nagelsmann, ça se passait quand même assez bien, même s'il y avait des discordes. En championnat, c'était un peu compliqué, mais ils restaient quand même en tête, on va dire. Il y a en Ligue des Champions, surtout, où ils avaient zéro but encaissé, je crois.
Ouais, le Bayern.
Quand même dur de virer quand même ton entraîneur. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Derrière Tuchel, ils gagnent le classiqueur. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions, mais peut-être qu'ils vont avoir raison. Et dans tous les cas, tu vois que c'est cohérent, c'est structuré, et ils prennent le risque. Nous, même avec 12 milliards de défaites, même avec des records de défaites, le type, il est encore là. Et ça, c'est pas normal. Mais du coup, j'aurais bien aimé, en tout cas, avoir vu cet électrochoc et voir ce que ça aurait pu donner.
Très rapidement, Amazigh Galtier, il n'a jamais été à Monaco. Campos Galtier, c'était juste à Lille. Et Campos, fondamentalement, c'est le physique de Galtier. Il l'avait installé avec les adjoints, il a fait partir les adjoints. Le jeu est devenu n'importe quoi à Lille. Et en fait, Galtier, quand il était tout seul à Lille, quand c'était les adjoints qui s'occupaient de la strat, bah, effectivement, c'était cohérent. Mais une fois qu'il s'est retrouvé tout seul, bah, il a vécu sur les acquis et son Lille est devenu beaucoup moins intéressant. Et Galtier, fondamentalement, c'est le fusible de Campo. Ils n'ont pas été ensemble à Monaco. Tu voulais réagir, tonton, je te laisse y aller.
Que rajouter de plus?
Ouais, mais voilà. Mais en fait, c'est ça qui est malheureux. En fait, c'est qu'on se retrouve en fait à répéter un peu tout le temps la même chose, espérer. C'est un jour sans fin en espérant qu'un jour.
C'est un éternel recommencement, ouais, comme dirait.
Après, il y a la dimension qui est préoccupante, c'est le un petit peu pire chaque année. On s'enfonce dans une logique, qu'elle soit financière ou qu'elle soit dans l'attente des résultats, dans la relation avec les supporters, dans tout ça. On est mine de rien, on a commencé ces montées après l'épisode Le Prou et tout ce qu'il y a eu après où c'était vraiment rien du tout. Ça a monté pendant 2-3 ans. On se souvient de toutes ces émotions. Est-ce que Messi va rentrer en match retour de quart de Ligue des Champions? Et on va passer si Messi rentre pas, mais il est blessé, mais il est rentré. Et on était à fond. On était à fond. C'était formidable. Et c'est monté comme ça. Et depuis, ça stasse. Les mauvais choix, tu les payes de plus en plus cher. Et ça, c'est préoccupant parce que tu te retrouves avec un passif, que ce soit financier, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, ça va être compliqué à bouger, quoi. Mais bon, après, tu te retrouves à te répéter
Mais c'est vrai que c'est ça qui est inquiétant surtout, c'est que là où avant tu faisais des erreurs, mais tu avais quand même une marge de manœuvre, qu'elle soit financière, etc., pour te retourner. Mais aujourd'hui, tu vois, comme le disait, tu l'as dit et tonton l'a dit aussi, financièrement, tu ne peux pas changer d'entraîneur en cours de saison. Financièrement, il y a certains joueurs, tu ne peux pas rompre leur contrat. Il y a certains joueurs, tu ne peux pas les recruter parce que ta masse salariale, elle est énorme. Certains joueurs, tu ne peux pas recruter parce que l'enveloppe, elle est trop faible. Donc au final, tous ces mauvais choix depuis des années, aujourd'hui, tu les payes, mais chèrement, parce que tu ne peux plus rien faire.
On va enchaîner, on va passer au top et flop. Après, il y a quelqu'un qui demandait Lens. Lens, on ne le sent pas forcément bien. Enfin, l'équipe, elle est malade. Après, il faut voir. C'est ce qu'on disait au début de live. Je t'invite à retourner le voir. Malheureusement, heureusement, c'est selon, les poursuivants à chaque fois loupent le coche et ne nous punissent jamais. Donc est-ce que Lens loupera le coche encore une fois? On verra, mais ce Paris Saint-Germain, on ne croit plus dans les ressorts de sa capacité à se surélever. Tu auras toujours des individualités qui pourront trouver des réponses, mais même ça, c'est moins vrai que la saison précédente. On va passer au top et flop. Chacun trois tops et on fera les flops après. Et je propose à Ken, en tant qu'invité, de commencer par ces trois tops.
Je peux faire un mélange des deux.
Tu peux choisir où tu veux. Moi, si j'en prendrai que Paris, parce que je ne connais pas assez les Lyonnais. Donc,
ouais. Alors, numéro 1, même si il me semble qu'il est rentré, c'est Bradley Barcola pour moi, qui a été le dynamiteur côté lyonnais, qui a fait vraiment mal à la défense parisienne pour le coup, qui est un jeune centre de formation, pas forcément le plus talentueux, mais le plus besoin, le plus travailleur. C'est le plaisir d'avoir des jeunes à cet âge-là, terre à terre, et je trouve que. Il fait partie des numéros 1 en termes des tops. Numéro 2, je vais mettre Lopez, qui a été rassurant, qui a fait de beaux arrêts quand même, mine de rien, assez déterminant par moment, et qui a été assez déterminant dans ses sorties quand même par moment. Et numéro 3, je mettrai le milieu de terrain. Thiago Mendes, qui est, vous voyez, pour moi, qui a quand même fait du mal aux Parisiens, c'est de dire Thiago Mendes.
Mais le penant aussi, mais...
Ouais, le milieu en général, mais Thiago Mendes, pour moi, qui est sorti du milieu.
Tonton, à toi. Les trois tops.
Il y a Garbi, il a fait une bonne entrée. Zahir Emery, il a joué. Et c'était les 15 ans de la Casa Steam. Joyeux anniversaire. Allez, c'est bon, c'est tout pour moi, toi, avec moi.
Ouais, non, mais je. C'est abusé. Bref, non, je suis d'accord aussi avec Ken. Pour moi, c'est Barcola, Thiago Mendes. Et après, pour mettre un Parisien, je vais mettre Nuno Mendes. Et en flop, voilà, je vais commencer les flops directs et je
Oh
vais
non,
mettre tout
non,
le
on n'est
monde.
pas après les flops qu'on tourne. Qu'on tourne. Moi, je vais juste en mettre un parce que je dis tellement souvent du mal de lui et je pense pas beaucoup de bien de lui. Il a fait un match, il a fait deux tentatives de frappe, il a fait une key pass, il a montré plus d'activité. Ben, voilà. Il a fait un grand match pour Renato. Ce n'est pas un grand match dans l'absolu, c'est un match qui vaut 5,5, mais ça vaut mieux que les 3,5 qu'il avait pendant les 20 minutes qu'il jouait. On va enchaîner avec les flops. On va faire inverser l'ordre. C'est toi qui commences, Rico. Tu voulais les faire,
Moi,
tu.
je mets tout le PSG en flop, très clairement. Voilà, ça a rien de choisir entre Messi, Mbappé, la peste et le choléra. Pour moi, tout le monde, voilà, tout le monde en flop. Les jeunes comme les moins jeunes. Même Danilo a été moins bon ce soir, malheureusement. Donnarumma fautif sur le penalty. Voilà, tout le monde a été en dessous. Flop, flop entier. L'équipe, l'entraîneur, l'institution, le public qui chante tout le match. Tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Ah, toi, tonton.
Bah, tout le monde.
À toi, Ken.
Moi, je vais en mettre un déjà. Ça fait pas mal de temps quand même. C'est Monsieur Donnarumma. J'ai un nouveau, une nouvelle publicité pour vous, un nouveau comment dire, partenaire. C'est Atoll les opticiens. Parce que je pense qu'il a vraiment des problèmes de vue, ce joueur. Je pense pas que ce soit un mauvais gardien, mais je pense qu'il a été peut-être surcoté dû à ses matchs avec l'Italie. Mais je pense qu'il a des vrais problèmes de vue. Il faut vraiment qu'il aille consulter le pauvre parce que c'est catastrophique au niveau sortie. Et sinon, ouais, le milieu de terrain en flop parce qu'il s'est fait bouffer quand même par le milieu de terrain lyonnais. Quand vous voyez les joueurs individuellement côté lyonnais, c'est pas flamboyant. Et je mettrais quand même voilà, Mbappé parce que j'attends beaucoup plus de ce joueur qui pour moi doit prendre le lead. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué pour lui, mine de rien.
Dans ce contexte, c'est pas possible. Moi, je vais flopper le contexte. Enfin, c'est ce poids que j'ai envie de flopper, ce poids qu'il y a quand c'est cette espèce de truc où tu pourrais attaquer 110 ans et ne jamais avoir une occasion de frappe qui s'approcherait d'un but et tu enchaînes les minutes et tu enchaînes les minutes et c'est tout le temps pareil et cette incapacité de remettre en cause. Voilà, en fait, le flop que je fais, c'est un petit peu tout. Ouais. J'essaye d'en trouver un spécifiquement, mais c'est même dur, si tu veux, d'en dégager un et de dire, ah lui, il a été nul. Non, non, c'est toute l'équipe qui, au niveau état d'esprit, a été 0 sur 20. Le seul moment où un sentiment de révolte, c'est quand les jeunes rentrent avec un Ruiz qui a fait une bonne entrée. D'ailleurs, j'aurais pu le citer en top. Mais voilà, c'est juste, c'est un petit peu d'insouciance. On a une équipe de gens, tu as l'impression qu'ils sont suffisants, satisfaits d'eux-mêmes. Ils sont imbuvables à voir. C'est vraiment. Faut compter sur l'autre équipe pour prendre du plaisir avec ce Paris Saint-Germain. On ne peut pas compter sur le Paris Saint-Germain et ça fait trop trop de matchs d'affilée maintenant. Et ça devient vraiment fatigant et tu as envie de leur mettre des claques quand même.
C'est une belle transition, justement. Je voulais finir là-dessus sur mon argumentaire. Je pense qu'on regarde tous le football. Ce week-end, il y avait un beau week-end de football d'ailleurs. Et ce qui fait le plus mal en dehors du PSG, c'est de voir les autres équipes. C'est de voir le milieu de terrain des autres équipes, des mecs qui se projettent, qui jouent au ballon, ça joue dans les demi-espaces, ça frappe, ça se projette, ça joue bien, tu vois. Et ça fait encore plus mal de se dire, mais pourquoi? Pourquoi pas nous? Pourquoi on n'a pas ces joueurs-là? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça chez nous, tu vois?
Je pense que
Et
tu as un
ça commence à faire
Balogun,
mal.
un Cajuste, ça n'a rien envie à certains joueurs du PSG aujourd'hui, hein, du côté de Reims par exemple, hein, pour ne citer que Cajuste et Balogun, Ito.
Après, c'est beaucoup une question
Après, il y a le
d'animation.
contexte.
Il y a
Après, il y a le
un
contexte.
contexte et puis l'animation avec ballon, animation sans ballon. Et pour le coup, le coach a un grand rôle. Bon, bah, écoutez, messieurs, en tout cas, merci à vous, beaucoup à vous d'avoir été là. Je le redis une petite fois, hein, les pouces, honnêtement, ça nous aide, ça nous permet de nous développer. Si vous ne l'avez pas fait, juste vous tournez votre téléphone, ça fait apparaître le petit pouce, vous appuyez. Si vous êtes sur ordinateur, vous passez en écran un peu plus petit, vous appuyez. Ça nous aide tout simplement, c'est bien cool et ça nous permet de vous proposer un contenu de qualité. Et ceci dit, j'ai envie de conclure en disant, ici c'est Paris, même si c'est une phrase qui sera dite sans grand enthousiasme ce soir. Ici c'est Paris. Ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Bonsoir, oui.
Merci au chat.
Ciao.
Bonne soirée.